Alors, nous avons tous un peu des personnages préférés dans la Bible. Hein. Alors, je voudrais juste savoir ceux qui ont comme personnage Daniel. Est-ce qu'il y en a qui ont Daniel comme personnage? Oui, hein, il a pas mal. Hein. Voilà, alors, je vous propose de lire un texte dans le livre de Daniel, hein, qui nous parle aussi de ce que nous vivons dans notre civilisation contemporaine. On va lire en partie le chapitre 3 de Daniel, qui parle des trois compagnons. Il y avait trois compagnons de Daniel, vous connaissez leur nom? Les trois compagnons? Voilà, donc c'était une équipe de quatre jeunes, on va entendre leur nom tout à l'heure. Juste un contexte, cet événement se déroule 606 avant Jésus-Christ. Et le roi de Babylone, qui était très puissant à l'époque, hein, vient d'assiéger Jérusalem. Et Dieu lui a donné la victoire, hein, sur Joachim, roi de Juda, parce que Dieu avait prévenu Juda allait suivre, disons, la même voie qu'Israël, hein, qui était déjà déporté, s'il ne se détournait pas des idoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Joachim a été fait prisonnier par le roi de Babylone. Des Hébreux et des ustensiles du temple, hein, dans le temple il y avait beaucoup d'ustensiles en or et tout ça pour le service du tabernacle, sont emmenés à Babylone. Et c'était le symbole justement de l'idolâtrie, hein, qui a été emmené à Babylone. Parmi ces Hébreux donc se trouve Daniel, Anania. Qui signifie quoi, Anania? Dieu est mon juge. Vous voyez, chaque nom avait une signification. Michaël, qui signifie l'Éternel fait grâce, et Azaria, qui signifie qui est égal de Dieu. Ces jeunes gens ont été respectivement rebaptisés, hein, par le chef des eunuques qui les avait reçus pour qu'ils puissent servir au palais du roi. Et ils ont été appelés Belshazzar, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc Belshazzar, c'est Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est pour ça que nous avons ces noms différents, les noms hébreux et les noms babyloniens. Et Dieu va se servir de ces jeunes gens pour manifester sa puissance aux yeux des nations. C'est grâce à l'intégrité de ces jeunes gens et à leur confiance totale en Dieu, que Dieu va pouvoir se manifester. Et ça, c'est une leçon pour chacun de nous. Alors, je vous invite à lire à partir du verset 1er au chapitre 3, donc dans le livre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Donc vous voyez, c'est vraiment tous les grands dignitaires du pays, plus que le pays, tout l'empire, hein, babylonien qui sont rassemblés. Et très souvent, Dieu permet des occasions comme ça pour manifester sa gloire à condition qu'il trouve des serviteurs fidèles. Et ça a été le cas avec les compagnons de Daniel. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix. Le héros, c'est celui qui souvent criait avant le démarrage de la guerre, c'était son rôle. Et donc, il avait ce rôle de crier à haute voix ce que le roi voulait annoncer. Voilà ce qu'il dit. Voici ce que on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, etc., tous les peuples, les nations, les hommes, de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Vous voyez, on a l'impression que c'est un peu comme des moutons de Panurge, qui font ce qu'on leur dit. Il y en a certainement la plupart qui ne savent pas trop ce qu'ils font, mais vous voyez, l'ennemi il utilise souvent cette capacité que nous avons, que nous ne sommes pas éclairés. Nous suivons des principes, des demandes souvent aberrantes, mais nous le faisons. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, etc., devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorerait pas se rejeter au milieu d'une fournaise ardente. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. » Donc, vous voyez, ils avaient déjà une responsabilité importante. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego. « Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette et de tous les instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Alors Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que le cheveu de leur tête n'avait pas été brûlé, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Ainsi, par la parole du Seigneur. Trois jeunes hommes qui ont le courage d'affronter les ordres du roi. Ce roi, comme je le disais, c'était non pas sur un pays, sur un empire. C'était celui qui dirigeait le monde à l'époque. Et pour avoir cette trempe de ces jeunes gens, il fallait qu'ils aient une vision de la parole de Dieu, une vision de Dieu lui-même, une vision de son royaume, qui est un royaume, nous le savons, inébranlable. Mais trop souvent, en tant que chrétiens, eh bien, nous nous laissons corrompre par le royaume de ce monde. Jésus n'a pas arrêté de le dire aux disciples. Jésus leur a parlé de ce combat entre ces deux royaumes qui se passe dans nos cœurs et où nous devons faire des choix. Et au moment où il allait aller à Jérusalem, il a réuni ses disciples sur la montagne du Tabor et il leur a dit bon, « Mon heure est venue, je vais y aller. Je vais aller au sacrifice. Mais celui qui veut être mon disciple et qui veut me suivre, il doit prendre sa croix. » Il a montré le chemin. C'est le même chemin que Jésus. Nous sommes disciples de Jésus. Et nous avons besoin de prendre notre croix. Et cette croix, c'est tout simplement de renoncer au royaume de ce monde pour adopter le royaume de Dieu. Il y a quelques années, quand l'Église allait mal, qu'il y avait plein de problèmes, plein de disputes, de difficultés dans l'Église, je me suis placé devant Dieu. J'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui cause tous ces problèmes? Et de manière étonnante, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Dieu m'a dit très clairement, c'est l'idolâtrie. J'ai dit, Seigneur, l'idolâtrie, on n'est pas en Afrique, on n'est pas un pays sous-développé, on n'a pas d'idole. Bon, peut-être l'Église catholique a des idoles, tout le monde le sait, des statues, mais on n'est pas idolâtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Dieu m'a amené à réfléchir. Et nous voyons qu'à chaque fois, le problème numéro un de l'adoration de Dieu, de l'intégrité, c'est l'idolâtrie. Alors bien sûr, les idoles maintenant sont beaucoup plus virtuelles qu'elles ne le sont, qu'elles ne l'étaient il y a quelques années, quelques siècles, où bien sûr les idoles, on en faisait de bois, de pierre, et nous avons ça encore dans les églises. Mais les idoles sont partout maintenant. Disséminés sur nos médias, et d'ailleurs on a prochainement un séminaire sur les médias, je vous invite à prendre quelques jours si vous travaillez pour suivre ce séminaire qui va vous éclairer sur la manière d'utiliser les médias aujourd'hui, parce que c'est des instruments fantastiques, mais ils véhiculent les idoles qui aujourd'hui eh bien polluent, corrompent la vie du chrétien et l'emmènent droit à se détourner du Seigneur. Et le Seigneur, il hait les idoles. Pourquoi est-ce qu'il hait les idoles? J'ai réfléchi beaucoup à cette question. Bien simplement parce que Dieu nous a créés des êtres extraordinaires. Est-ce que vous savez que vous êtes un être extraordinaire? Regardez vos mains. Si vous regardez un peu les explications scientifiques, maintenant on peut aller très loin avec les instruments actuels. Les savants sont étonnés de la manière dont fonctionne notre corps, notre être, nos capacités réflectives et autres. notre intelligence. Bien sûr, il n'est pas à la hauteur de Dieu, mais par rapport à la création, nous sommes des êtres merveilleux que Dieu a fait. Et Dieu nous a destinés à une destinée glorieuse. C'était le cas au Jardin d'Éden. Bien sûr, tout a basculé quand le serpent a été écouté plus que la voix de Dieu. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais Dieu nous a destinés à sa gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire, pour son plaisir et pour notre plaisir, pour cette relation qu'il veut avec nous. Et le problème, c'est que quand on se tourne vers les idoles, eh bien, on se tourne vers la vanité. Et d'ailleurs, c'est ça qui sort dans l'Ancien Testament qu'on vous lisait, c'est que tous les idolâtres, ils appellent des vanités. Pourquoi ? Parce que comme on s'attache à quelque chose qui n'est pas Dieu, et qu'on le vénère, et qu'on l'élève, qu'on lui donne la place, regardez le nombre de personnes aujourd'hui en France qui vont dans les églises le dimanche matin pour le jour du Seigneur, il y en a très peu, et de moins en moins. Et on célèbre tout un tas d'autres choses, et ils célèbrent les idoles, et bon, toutes les idoles sont élevées au rang de Dieu. Et quand on regarde vers une idole, eh bien, on se sépare de cette gloire que Dieu nous a réservée, et on s'attache à des vanités, et on devient soi-même une vanité. C'est-à-dire, on se vide de ce contenu que Dieu a voulu pour nous, de cette richesse extraordinaire qu'il a voulu pour nous. Et à ce moment-là, eh bien, soi-même, on se dessèche. Soi-même, on n'a plus le sens, le goût de la vie. On n'a plus la joie de vivre. Et c'est pour ça que, souvent, Yves m'en parle, hein, de cette catastrophe, de ces gens, de ces Français qui ne savent plus où aller. Ils voient tout en noir, ils ne voient que des problèmes. Forcément, parce que quand on est vaniteux, quand on n'a plus de vanité, quand on est dans la vanité, on n'a plus d'espoir, on n'a plus rien. François Mitterrand, qui s'est ouvert très peu de journalistes, eh bien, celui, juste avant sa mort, auquel il s'est ouvert, il a dit « Tout est vanité ». L'homme suit la vanité. Lui, il avait tout. Hein, il a profité de tout. Et lui-même a reconnu qu'il n'y a que vanité, que ce qui conduit les hommes, c'est la vanité. Mes frères et sœurs, nous sommes conduits vers une destinée glorieuse, vers un but glorieux, vers quelque chose qui nous élève, vers quelque chose qui nous attire à un Dieu vivant. Amen. Vous êtes heureux ce matin ? D'appartenir au peuple de Dieu qui a cette destinée. Eh bien, ça a été le cas des compagnons de Daniel. Ce sont d'abord des jeunes gens consacrés. Consacrés. Lors de la lecture du livre de Daniel, nous voyons que ces trois jeunes hommes ont la volonté de rester intègres. Ils l'ont décidé dans leur cœur dès le départ. Et ils voulaient mettre en pratique les commandements de Dieu. On le voit tout de suite lorsqu'ils refusent la nourriture. Pourquoi la nourriture ? Eh bien, parce qu'à l'époque, toute la nourriture, et en particulier la viande, et en Grèce aussi, eh bien, elle était sacrifiée aux idoles. Vous alliez dans une boucherie, eh bien, les bouchers, ils vendaient des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Toutes les viandes étaient d'abord... les animaux étaient tués dans les temples. Une partie, alors il y a tout un tas de règles, une partie allait aux prêtres de ces temples idolâtres. Il y avait des banquets aussi à l'intérieur de ces temples, avec des prostitutions sacrées, etc. Enfin, il y a tout un truc qui était fait. Et Paul, il met en garde contre cela. Et ensuite, après, le reste était distribué dans les boucheries et vous achetiez des viandes sacrifiées aux idoles. Et c'est pour cela qu'il y a tout dans Corinthiens, l'apôtre Paul qui fait cette comparaison entre les idoles et le repas du Seigneur. Et ici, c'était le cas. Ces Babyloniens qui, vous savez, Babylone est au centre de l'idolâtrie, hein, toute l'idolâtrie, ensuite a essaimé à partir de Babylone. Et donc, toutes ces viandes, tous ces mets, surtout auprès du roi, bien sûr, parce que le roi, il fallait qu'il ait la puissance, donc il fallait adorer les idoles et qui étaient les plus puissantes, hein, qui étaient invoquées. Et donc, tous ces mets étaient consacrés à ces idoles. Et ces trois jeunes gens, comme Daniel d'ailleurs, ils le savaient. Et ils ne voulaient pas se souiller avec les idoles. Ils savaient que l'idolâtrie les amenait à la vanité et qu'ils ne pourraient pas glorifier Dieu, qu'ils ne pourraient pas être à la place que Dieu voulait. Et donc, ils ont refusé catégoriquement de prendre ces mets. Ils refusent de manger les mets à la table du roi. Ils ne veulent pas se corrompre. Et c'est contraire à la loi. Et très souvent, c'était aussi des orgies, hein, qui accompagnaient ces repas. Et plus tard, eh bien, ils ont la capacité de refuser de s'agenouiller devant l'idole de Nebuchadnezzar. Des jeunes gens consacré à l'Éternel. La deuxième particularité, c'est qu'ils ont une confiance inébranlable, une confiance ancrée dans le Dieu qu'ils servent. Vous savez, à cette époque, on ne rigolait pas avec l'autorité, c'est pas comme maintenant, hein, on peut se moquer de toute autorité. Bon, il y a parfois une limite, mais elle est très très loin, et personne ne dit rien. À l'époque, on ne rigolait pas avec l'autorité. Si vous faisiez un affront à une autorité la plus placée, eh bien, votre tête était mise à prix immédiatement. C'était un affront digne de mort que de ne pas respecter un ordre que le roi avait donné. Cependant, ses trois compagnons ont refusé de se prosterner devant l'idole. Et alors, ils ont été dénoncés. Bien sûr, il y a toujours des gens qui caftent, hein, qui sont là pour ça. Hein. Mais ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de se compromettre et ils persévèrent dans leur décision. Merci beaucoup. Je vais prendre tout de suite. Moi, j'avais un chat. Et ils persévèrent dans leur décision malgré l'ordre du roi. Dans le texte, on peut ressentir que les trois jeunes gens sont remplis d'une confiance. Est-ce que vous le ressentez quand vous lisez le texte ? Une confiance inébranlable. Le texte est très sobre, mais il présente cette confiance absolument totale. Non content de désobéir au roi, ils lui répondent. C'est encore un affront supplémentaire. Répondre au roi. Nous n'avons rien à répondre là-dessus. Là, c'est l'affront le pire que le roi peut essuyer. Vous voyez, que quelqu'un puisse répondre et que le roi puisse lui dire ben non, c'est ça, ça, ça. Mais là, il ne lui demande même pas de réponse au roi. Ils disent, je n'ai rien à répondre là-dessus. Ça veut dire que tu peux donner tous les ordres que tu veux, je ne réponds même pas à ça. Tu nous demandes de nous prosterner, il n'en est même pas question, il n'est même pas question d'aborder ce sujet. Voyez-vous, la détermination. Et moi, ça me fait toujours penser à ce livre que j'ai lu, qui est écrit par un inconverti, de Martin de Tours, hein, qui a laissé le nom de Saint-Martin à tous les patelins de notre pays. Et lorsqu'il a été convoqué devant l'empereur Charles Quint, c'est ça, en Allemagne, il est allé et l'empereur l'a convoqué parce qu'à l'époque, il y avait l'arianisme, hein, qui se développait. Et donc, il y avait un conflit parce que l'empereur était pour l'arianisme, etc. Enfin, il y avait toute une histoire théologique autour de ça, mais derrière il y avait un enjeu pour la chrétienté. Donc il a été convoqué parce que lui avait pris position contre l'arianisme avec Grégoire de Poitiers, je crois, enfin je ne sais pas si c'est à Poitiers, mais c'est dans ce coin-là, qui avait pris position contre Arius. Et il a été convoqué pour cela. Et lorsqu'il est arrivé devant l'empereur, hein, bien sûr il y avait toujours un banquet, l'empereur lui donne la coupe et la consigne de l'époque, la coutume de l'époque, c'est que celui qui recevait, il la donnait au roi. Ça veut dire que c'était un signe de soumission au roi ou à l'empereur à l'époque-là. Donc un signe de soumission. Et il le donnait, bien sûr, dans un geste symbolique, pour dire maintenant, tu vas être soumis à ce que je vais dire, à la décision que je vais prendre. Et donc, c'était, vous voyez, tout est symbolique. Donc, il lui tend la coupe. Et Martin de Tours, qui prend la coupe, et au lieu de la donner au roi, il la donne à celui qui est à côté de lui, qui était aussi un chrétien, qui était venu avec lui. Et il a dit à l'empereur, « Eh bien, sire, je la donne d'abord à un serviteur de Dieu. » Et il y avait dans la salle, on pouvait entendre les mouches voler. Tous les dignitaires du royaume étaient là. Ils ont dit, « Ça y est, immédiatement, il va être décapité. » Bien, l'empereur, il n'a pas bougé. Parce qu'il a respecté cet homme. Parce que cet homme faisait des miracles. Il avait des miracles incroyables. Il croyait dans la puissance de Dieu. Il croyait vraiment, il détruisait toutes les idoles qu'il y avait en Gaule à l'époque. Et il établissait le royaume de Dieu. Voyez-vous, quand quelqu'un est déterminé dans sa foi, si vous êtes vacillant, vous allez, au dernier moment, vous allez lâcher prise. Mais vous êtes déterminé, vous savez qui vous servez, et vous avez confiance en Dieu, eh bien, vous affirmez votre foi. Vous êtes solide comme du roc. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans la même nature que ce Dieu qui vous habite. Vous n'êtes pas dans la vanité, vous êtes dans l'assurance, dans l'audace et dans l'autorité, comme l'ont été les apôtres. Dans les actes des apôtres, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, ils avaient l'autorité de Dieu, ils avaient l'audace, ils avaient l'assurance que Dieu allait agir. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin dans ces temps où tout est relatif, tout est bougeant, il n'y a plus aucune sécurité, chacun a sa vérité, chacun fabrique sa vérité. Mais si nous voulons servir Dieu, il faut que nous soyons comme les compagnons de Daniel. Ils ont persévéré dans leurs décisions et ils ont vraiment amené affront sur affront de manière très très polie, simplement nous ne répondrons pas là-dessus. Et devant les témoins, donc les grands du royaume qui étaient là, tous les peuples présents pour adorer l'idole, ils ont cette assurance exemplaire. Alors Nebuchadnezzar, qui est gonflé d'orgueil, hein, vous voyez, dans ces cas-là, les chefs de gouvernement sont gonflés d'orgueil quand ils sont entourés de toute cette foule et qu'ils se sentent investis d'un pouvoir qu'ils doivent bien sûr assurer parce que la foule attend cela, eh bien, il leur demande « Quel Dieu vous délivrera de ma main ?» Voyez-vous, il affronte directement le Dieu du ciel. Il affronte directement Dieu. Quand on est idolâtre, eh bien, on ne se rend même plus compte qu'on est en train d'amener l'affront vers Dieu lui-même. Il dit « Quel Dieu ?» Comme si ce Dieu que les trois compagnons de Daniel adorent n'étaient juste une idole comme une autre. Voyez-vous, on traite Dieu comme les autres idoles. Et les Français, aujourd'hui, en sont arrivés là. Ils sont tellement idolâtres de tout un tas de choses qu'ils ne se rendent même plus compte que ce Dieu qui a donné Jésus-Christ est le Dieu suprême, le Dieu qui connaît toutes choses et qui un jour va juger le monde. Et c'est cela qu'amène la vanité. C'est qu'on n'arrive plus du tout à comprendre la réalité des choses et la profondeur des choses. Et ces jeunes gens se confièrent entièrement à Dieu. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Regardez l'humilité de ces hommes. Voyez-vous, il y a des chrétiens parfois qui disent « Oui, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, Dieu va faire... » Un peu comme si c'est eux qui commandent à Dieu de faire des choses. Voyez-vous, ça aussi, c'est une vanité dans laquelle tombent les chrétiens qui sont mal affermis et qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Eux, ils connaissent Dieu. Ils savent qui est Dieu. Et pourtant, ils disent « Dieu peut nous délivrer ». Ils n'ont pas dit « Dieu nous délivrera ». Parce que, de toute façon, ce qui était important pour eux, les compagnons de Daniel, c'est de servir Dieu. Et comme Paul, un jour, il dit « Bon, même si Dieu m'ôte la vie, bon, j'irai plus rapidement vers le Seigneur. Ce sera qu'un gain pour moi. » Mais non pas ma volonté, mais que ce soit la volonté de Dieu, s'il veut que je reste encore quelques années à le servir. Et là, on a la même attitude, cette confiance totale en Dieu, qui est que si Dieu nous délivre, bien, c'est parce qu'il veut se glorifier au travers de la délivrance. Si Dieu nous prend la vie, de toute façon, il sera glorifié. Et par nos vies, nous n'aurons pas cédé le pas aux idoles et nous continuerons à le servir et nous irons avec le Seigneur. Voyez-vous, cette humilité des hommes et des femmes de Dieu qui ont une confiance totale, ce n'est pas les circonstances qui conduisent leur foi, leur détermination, mais c'est leur foi totale dans la puissance de Dieu. Ce Dieu que nous servons peut nous délivrer. Ils sont prêts à accepter sa volonté. Et ils restent certains que Dieu peut les délivrer de la fournaise. Ils sont prêts à accepter toute la volonté de Dieu. Ils confient leur destinée entre ses mains. Alors, quelle est la part de Dieu? Là, nous avons vu la part des compagnons de Daniel, la part de Dieu. Eh bien, c'est la fidélité de Dieu alors que tous les espoirs sont perdus. Et vous, il était dans une telle rage, le roi de cet empire babylonien, qu'il a demandé qu'on chauffe 7 fois plus la fournaise. La fournaise était suffisante pour brûler n'importe qui. Eh bien, il était tellement fou qu'il a dit « Ah, je vais les avoir » et c'était même insensé. Hein. À tel point que les hommes qu'ils ont jetés, ils ont été brûlés immédiatement alors qu'ils étaient devant la fournaise, ils n'étaient pas dans la fournaise. Donc la fournaise a été chauffée 7 fois plus et les hommes d'armes qui meurent. C'est le moment critique. Qu'est-ce qui va se passer? Shadrach, Meshach, Abednego vont subir la conséquence de leur décision. Il faut savoir prendre des décisions dans la vie. Voyez-vous, tout homme, toute femme doit prendre des décisions. Très souvent, on voit des chrétiens qui sont indécis. Bon, on peut parfois l'être quand on ne connaît pas bien, quand on est dans une recherche de la volonté de Dieu. Mais nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de décision. Des gens qui sont conduits, qui sont dirigés par le Seigneur. Et ça aussi, c'est un témoignage pour le monde. Hein, pour décider, pas avoir peur de prendre des responsabilités et de décider et d'assumer ses responsabilités. Et c'est ce que ont fait ces 3 compagnons. Mais Dieu, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va les secourir ou pas? Eh bien, Dieu n'a pas évité l'épreuve aux jeunes gens. Vous ne voyez pas que c'était une épreuve pour ces jeunes gens? D'arriver jusque-là, hein, d'être trahi, d'être amené devant le roi, d'être confronté à leurs engagements, leurs croyances, devant tous les dignitaires et tout le peuple du pays, d'être affiché comme ceux qui désobéissent au roi. Eh bien, Dieu ne leur a pas évité cette épreuve. Il a permis cette épreuve. Mais comme Dieu maîtrise toutes choses et qu'il a tout entre ses mains, il est venu les secourir. Rien n'est arrivé aux jeunes gens. Vous voyez que même leurs cheveux n'ont pas été touchés. Ça vous rappelle quelque chose? Jésus dit que même les cheveux de votre tête sont comptés. Dieu connaît chaque chose de nos vies. Et même les cheveux n'ont pas été touchés par le feu. Vous avez déjà essayé de mettre un briquet près d'un cheveu? Vous voyez la vitesse à laquelle ça va? Il y a une de mes tantes, la sœur à ma mère, qui a failli mourir, parce que ses cheveux qui ont brûlé, il y a eu un incendie, s'est déclaré. Heureusement, on lui a mis une couverture sur la tête, mais vous pouvez brûler, hein, quand vous avez des grands cheveux qui prennent feu. Donc, vous voyez, même les cheveux n'ont pas été touchés. Dans la fidélité que Dieu manifeste, Dieu a transformé un moment terrible. Terrible de détresse, mais ce n'était pas terrible pour les compagnons parce qu'ils l'ont vécu dans la sérénité. Mais si on imagine ça à leur place, c'est terrible. Et ça a été un moment béni. Il a utilisé l'obéissance, la confiance des jeunes gens pour faire éclater sa gloire, pas simplement n'importe comment, mais devant tous les dignitaires de ce pays. Voyez-vous, c'était une occasion pour que Dieu montre que tous ces dieux babyloniens qui sont adorés, ce sont des idoles. Et qu'elles n'ont aucun pouvoir, que c'est une invention des hommes, que c'est une invention humaine, mais que lui, Dieu vivant et vrai, tient tout dans sa main. Et le roi orgueilleux est obligé de reconnaître toute la puissance de Dieu. Et toutes les foules, toutes les nations, voient l'action puissante devant leurs yeux. Voyez-vous, quand des hommes et des femmes de Dieu sont fidèles, eh bien, ils permettent à Dieu de se manifester. Ils sont les instruments de la gloire de Dieu. Est-ce que nous, nous voulons être des instruments de la gloire de Dieu? Pour cela, il faut que nous soyons déterminés dans nos convictions et fidèles en toute chose à sa parole. Alors, on en arrive un petit peu à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Saint-Esprit est descendu. L'effusion du Saint-Esprit. Il y a eu 3000 hommes qui ont été touchés par le message de conversion qui a été apporté par Pierre. Et il y a quelque chose d'intéressant à savoir, bon, ça fait partie de ce que les rabbins disent, c'est pas relaté dans la parole, donc c'est sujet à caution. Mais pour les Juifs, la Pentecôte, c'est la commémoration de la réception de la loi de Moïse qui, soi-disant, a été donnée 50 jours après la sortie d'Égypte. Bon, ça, c'est pas écrit dans la parole, mais c'est ce que les rabbins enseignent. Donc, ce serait une commémoration de la loi que donnait Moïse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Shadrach, Meshach, Abednego, tout a commencé par le respect de la loi. Voyez-vous, ils sont arrivés à glorifier Dieu dans, au travers de cette fournaise, mais tout a commencé au moment où ils ont refusé les mets du roi. Alors, voyez-vous, Dieu peut nous confier de grandes choses à condition que il puisse nous confier des petites choses. Nous devons commencer par le respect de la parole, le respect de la loi. Et avant que Dieu ait pu les utiliser dans ce passage pour la fournaise, eh bien, ils ont commencé, eux, à être obéissants par rapport à la parole de Dieu. Peut-être qu'ils n'ont pas tout compris. Peut-être que vous, vous ne comprenez pas tout dans la parole. Mais la première des choses, c'est le respect de la loi. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Ce soit un peuple qui respecte sa loi, sa parole. Et le monde aujourd'hui est caractérisé par la relativisation de la loi. Chacun veut sa loi. C'est pour ça que les législateurs, ils ont du boulot. Hein. L'autre fois, c'est incroyable, j'ai appris à la radio qu'ils ont passé, ils ont terminé la session parlementaire, vous savez à quelle heure? À 8 heures du matin. Toute la nuit, ils ont légiféré, je ne sais pas comment ils font, ils devaient avoir un truc qui les secouait, enfin, c'est aberrant, quoi. Toute la nuit, ils ont légiféré et ils sont partis à 8 heures du matin. Je ne vois pas quel type de bonne décision on peut prendre dans ces conditions-là. Mais vous voyez, c'est incroyable. Un jour, je ne sais plus si c'est De Gaulle, je crois, qui s'est mis en colère en disant oh, « il y en a marre, il y a tellement de lois. » Il y a tellement de lois qui sortent qu'on ne peut même pas les appliquer. Il y en a trop, quoi. Et donc, il faut presque des ordinateurs pour arriver à comprendre toutes les lois en les cumulant les uns les autres. Parce que, en fait, personne ne respecte la loi, et donc il faut. Il y en a d'ailleurs des petits malins qui déjà savent un peu ce qu'ils discutent au Parlement et ils cherchent déjà à détourner la loi avant même qu'elle sorte. Et une fois qu'elle est sortie, ils ont déjà tous les parades, que ce soit les radars, les machins, les trucs. Enfin, ils ont déjà tout pour contourner la loi, quoi. Parce qu'on est dans un temps où tout doit être relatif. C'est ma loi qui compte. C'est ma religion qui compte. C'est ma croyance qui compte. C'est l'individualisme complet. Or, Dieu, il a sa loi. Vous croyez que Dieu a des lois? Regardez l'univers, comme il les a créés. Toutes ces choses extraordinaires se basaient sur des lois. Et il y a des lois morales. Il y a des lois morales qui sont inscrites dans l'univers. Et si c'est C.S. Lewis qui parle de tout cela. Quand nous pénétrons de la présence de Dieu, eh bien, nous rentrons dans cet ordre que Dieu a créé. C'est un ordre et pas un désordre. Or, aujourd'hui, nous sommes dans le désordre le plus total. Et ça va de pire en pire parce que chacun veut sa loi. Chacun veut avoir raison. Chacun veut, bien, midi à sa porte, comme on dit. Mais Dieu, à la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné son esprit pour quoi faire? Ben pour obéir à sa loi. La loi, elle n'est pas terminée avec le Nouveau Testament. Simplement, le Saint-Esprit, il vient en nous pour nous aider à accomplir la loi. Alors? C'est ça. Et ça, c'est le message de la Pentecôte. C'est que le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, il change nos cœurs et il place sa loi, où ça ? Dans nos cœurs. C'est ça, la nouvelle alliance. Dans nos cœurs. Mais c'est pour l'appliquer, la loi. Or, Shadrach, Meshach et Abednego, ils l'ont appliquée sans le Saint-Esprit. Ils l'ont fait par obéissance pure, parce qu'ils voulaient servir leur Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons plus que Shadrach, Meshach et Abednego. Donc on peut aller plus loin que lui dans notre obéissance. Si nous travaillons cette relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, eh bien nous pouvons nous aussi être des Shadrach, Meshach et Abednego devant les témoins de ce monde. Dieu nous donne ce consolateur, il nous donne son esprit. Amen. Alors, j'aimerais rapidement conclure aussi ce message que j'avais donné il y a 3 semaines sur la vision, parce que ça m'a fait penser à la vision. C'est que les compagnons de Daniel, ils avaient une vision. On peut premièrement constater, quand on lit le texte, qu'ils connaissaient leur appel. Ils savaient qu'ils étaient appelés par Dieu dans une mission précise. Et ils savaient quelle était leur destinée. Ils n'avaient pas peur de la mort. Donc vous voyez qu'ils étaient imbus de l'histoire, du plan. Ils savaient que Dieu a un plan, qu'il utilisait les Juifs pour la venue de Jésus. Ils le savaient. Et donc ils avaient une vision de l'histoire. Ils incarnaient cette vision. Ils savaient qu'ils appartenaient au peuple de Dieu et qu'ils avaient une responsabilité, une mission à accomplir. Et ils n'étaient pas orgueilleux au sens de dire « on va tout faire, on est Zorro », non. Mais ils savaient qu'ils étaient dans une lignée, que leurs pères leur ont transmis et que les fils vont suivre, et qu'ils avaient cette responsabilité. Ils étaient dans cette humilité et ils faisaient leur part. Et si nous, chrétiens, souvent, nous pouvons rester dans notre part. Je vois des chrétiens qui sont très zélés. Moi, je les admire, mais quelque part, je les plains. Ils disent, on veut sauver la France. Bon, OK, sauver la France, d'accord. On veut que cette nation connaisse Jésus, bien sûr. Mais et alors, ils s'excitent, etc. Bon, non, ce n'est pas en s'excitant qu'on va sauver la France. C'est Dieu qui va sauver la France. Et nous devons simplement rester là où Dieu nous a appelés, faire du mieux que nous pouvons pour le Seigneur, déjà à notre travail, là où nous sommes, dans les petites choses, comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont commencé par refuser les mets du roi, et Dieu les a conduits dans une circonstance, et c'est Dieu qui est le maître des circonstances. Amen. Et c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. La deuxième chose, c'est qu'ils connaissaient leur mission, c'est servir Dieu et son royaume. Et ça, ils en étaient absolument convaincus. Et rien ne pouvait les enlever de cette mission. La troisième chose qu'ils ont, qui fait partie de cette vision, c'est qu'ils avaient des relations. Relations avec Dieu. Ça, c'est le plus important. Connaître son Dieu. Savoir qui il est. Savoir qu'il est vivant. Savoir qu'il répond aux prières. Qu'il répond à mes prières. Pas selon ma volonté, selon la sienne, mais qu'il répond. Donc une relation avec Dieu et une relation entre eux. Voyez-vous cette unité qu'ils avaient avec Daniel, entre eux, avec le peuple qu'ils voulaient soutenir, ils voulaient être un modèle pour le peuple. Ils avaient une relation. Et la relation, c'est quelque chose qui, dans la vision, est importante. Nous sommes des êtres de relation. Sans relation, eh bien, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre individuellement. Maintenant, vous voyez des gens avec des Walkman tout le temps, tout ça, qui sont dans leur monde, quoi. Et qui ne peuvent même plus relationner. Voyez-vous, la relation est absolument fondamentale. Ils étaient aussi des gens intelligents. On n'a pas besoin d'être chrétien et bête. On peut être intelligent. Et oui, on n'a pas besoin d'être sale et bête pour être chrétien. Regardez ce qui est marqué. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Voyez-vous ? Ils étaient férus dans les sciences, ils étaient férus dans les lettres, hein, ce qui n'est pas mon cas, mais ils avaient tout. Hein. Ils étaient des jeunes gens intelligents, hein, qui étaient d'ailleurs choisis pour cette intelligence, pour servir auprès du roi, pour le conseiller dans toutes sortes de sciences et de discernement. Donc des gens intelligents, imaginatifs, qui sont versés dans les sciences et dans les lettres et dans la sagesse de Dieu. Et ça aussi, ça fait partie de notre vision, c'est de comprendre les choses qui nous entourent, la réalité de ce qui nous entoure. Et enfin, la cinquième chose, c'est qu'ils étaient déterminés, résolus. Il nous est dit, verset 8 du chapitre 1er de Daniel, « Daniel résolu de ne pas se souiller ». Et j'ai une petite note sur le terme « résolu », pris à cœur. Voyez-vous, ça vient du cœur. Il a résolu de ne pas se souiller. Quel que soit le prix, quelles que soient les choses qui arrivent, est-ce que vous, dans votre travail, vous êtes résolu à ne pas jouer la corruption? Je sais que ce n'est pas toujours facile. Le secrétaire, le patron lui dit, tu diras, je ne suis pas là. Le secrétaire dit, non, on ne peut pas dire ça, vous êtes là. Peut-être dire que vous êtes occupé ou autre chose. Oui, mais dans les petites choses, puisque aujourd'hui le monde n'a plus de valeur, eh bien tout est bon pour justifier les choses. Est-ce que vous êtes résolu à obéir à la loi de Dieu? Ça commence dans le cœur. Résolu avant d'agir, c'est la résolution qui importe. Donc ce sont les cinq caractéristiques de la vision. Et je voudrais mettre en parallèle Jésus. Jésus avait aussi la vision. Il connaissait son appel. Jésus connaissait sa destinée. Il savait pourquoi Dieu, son Père, l'avait appelé. Et il savait aussi que la gloire l'attendait. Jésus connaissait sa mission. Il a expliqué à ses disciples. Il savait qu'il devait racheter l'humanité. C'était un poids énorme. Et au dernier moment, il a failli craquer. Il a dit, Père, que cette coupe s'en aille. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus avait des relations. Relations avec son Père et relations avec ses disciples. Et relations avec tout le monde, y compris les Samaritains et ceux qui étaient bannis de la société juive. Quatrièmement, Jésus utilisait son intelligence. Il la mettait pas en placard. Il parlait en parabole pour le peuple, il expliquait pourquoi. Il parlait en connaissance avec les disciples. Il parlait avec les grands de ce monde. Il parlait avec la prostituée. Jésus utilisait son intelligence. Et Jésus était déterminé dans ses choix. Il savait qu'il devait faire la volonté de Dieu. Et il était déterminé dans ses choix, comme Daniel l'était, comme les compagnons de Daniel. Ses projets étaient clairs. Ses actes n'étaient pas ambigus. Alors que Judas, regardez quand on est dans la vanité, quand on est dans l'idolâtrie de l'argent, comment Judas a changé de cap, a changé de position. Au dernier moment, il s'est repenti, il a vu qu'il a fait une erreur et puis il s'est pendu. Enfin, voyez-vous, tous ces actes erratiques, eh bien, ça vient de l'idolâtrie, ça vient du manque de vision, ça vient du manque de détermination, d'un opportunisme de l'histoire. Ceux qui marchent dans une vision, inspirés par l'Écriture, ils marchent avec autorité, assurance et droiture. Ils ne craignent pas les terreurs de la nuit, ils ne craignent pas les intimidations de l'ennemi, mais leur âme est fortifiée. Et là, je vais m'arrêter là, mais je voulais dire un mot sur l'âme qui est différent de la chair. Je vais juste citer un passage, mais c'est un passage parmi d'autres. Et là, il faudrait faire toute une prédication là-dessus. Et là, je n'ai pas le temps. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens confondent l'âme et la chair. Et ça n'a rien à voir, rien du tout. Je prends Philippiens, par exemple. Mais il y a Philippiens 3:3 et Galates 2:20. Il y a Jean 3:6, ceux qui veulent le lire. Philippiens 3:3 dit « Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et ne mettons pas notre confiance dans la chair. » Les chrétiens qui pensent que c'est l'âme, non, l'âme n'a rien à voir avec la chair. Et là, je n'ai pas le temps de lire parce que la chair, c'est « sarx » en grec et c'est le mot le plus difficile que Paul, parce qu'il est surtout utilisé par Paul, il n'est pas trop utilisé dans le monde grec. Et donc, il faut bien lire le contexte pour comprendre ce mot « chair » dans le Nouveau Testament. Et je reviendrai là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que notre âme, Dieu veut l'utiliser. nos émotions, notre affect, notre relationnel, notre intelligence, notre imaginel, notre compréhension, notre raison et notre volonté. Ces trois choses qui sont les composantes de l'âme font partie, les renouveler par l'Esprit de Dieu pour que nous soyons des témoins dans le monde d'aujourd'hui, pour que nous puissions être comme les compagnons de Daniel, eh bien, être face à toutes ces sollicitations idolâtres qu'on nous propose et dire non, je n'en veux pas. Et je ne me souillerai pas avec ces choses. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne d'être fidèles dans les petites choses pour que nous puissions être fidèles dans les grandes. Et je voudrais qu'on prie maintenant pour que le Seigneur nous donne cette grâce. Père, nous te remercions parce que, Seigneur, au travers de cette histoire que tu as permis qu'il nous soit relaté dans ta parole, nous voyons, Seigneur, ces trois jeunes gens qui, Seigneur, ne cèdent aucun pouce à l'ennemi, aucun pouce à la chair, aucun pouce, Seigneur, à leur propre désir, mais, Seigneur, qui sont résolus à accomplir ta parole. Seigneur, donne-nous d'être de cette trempe aujourd'hui, Seigneur, dans ce monde souillé d'idoles et de corruption. Seigneur, aide-nous à être des témoins fidèles dans notre travail, dans notre lieu quotidien, Seigneur, parce que l'Église est facile, mais Seigneur, là où tu nous as placés, que chacun de nous, nous puissions vraiment nous fortifier dans ces choses et être des témoins puissants, et que toi, tu puisses te glorifier, qu'au moment voulu, Seigneur, ou une circonstance que tu places, nous puissions être de ceux qui sont reconnus comme tes fidèles serviteurs. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.